sur PFM, l'émission Reportage en herbe. Dans le cadre d'un atelier radio effectué en partenariat avec la communauté de communes de la Porte des Vallées et l'association Le Club des Jeunes Lélis Arançard. Au sommaire de Reportage en herbe, un entretien sur le raid avec Alexandre Panquin, chargé de la culture et des sports de la communauté de communes de la Porte des Vallées. Et pour commencer, une interview avec Daniel Cassoré, un amateur de la course à pied. Il nous donne des conseils pour pratiquer cette discipline.
Y a-t-il des risques, des contre-indications à la pratique du jogging ?
Il y en a peu, mais il y en a effectivement. La première des choses, c'est la visite médicale. Même si on n'a pas de licence, si on ne court pas dans un club, si on veut se mettre à la course à pied, il faut passer une visite médicale. Et je ne mets en cause aucun toubib, mais il y a à Arras un centre médico-sportif avec des toubibs spécialisés. On prend rendez-vous où qu'on habite, c'est payant bien sûr, comme une consultation médicale, mais là vous avez une visite complète avec électrocardiogramme, avec test d'effort, etc., qui vous permet a priori de savoir que vous êtes bon pour le service, disons bon pour la course à pied. Les risques, mais je veux dire, on peut avoir un infarctus en montant l'escalier comme on peut l'avoir en course à pied. Ils sont, par rapport aux autres sports, quand même très mesurés. Il n'y a pas de risque de physique. Il n'y a pas de contact, à part les entorses, quand on court dans la nature, on ne va pas se bousculer entre coureurs, c'est rare, quelquefois au départ des courses. si l'entraînement est mal conduit, effectivement, on peut détériorer sa santé, et vraiment de façon irrémédiable. Donc la course est faite pour s'entretenir, mais surtout pas pour se démolir.
Les échauffements, étirements au début ou à la fin ?
Personnellement, et je ne suis pas le seul dans ce cas, les étirements c'est avant, donc pendant l'échauffement et après la séance de jogging. Ils ne sont pas tout à fait de la même nature, mais ils sont importants des deux côtés. Les échauffements avant permettent de préparer les muscles à l'effort, de les étirer mais de façon raisonnée, alors qu'après la course, vous savez, quand on court, on accumule de l'acide lactique dans les muscles, et les étirements permettent de chasser l'acide lactique, donc d'éviter, tant que faire se peut, les courbatures. Quand on fait des étirements avant la course, on commence par contracter le muscle. Je veux, par exemple, si je veux faire un étirement de la cuisse avant la course, je vais d'abord me mettre donc le quadriceps ici sous tension pendant 10 secondes. Je relâche le muscle et ensuite je vais l'étirer. Donc contraction, relâchement, étirement. Ça, c'est avant la course. Plus, évidemment, la course à faible allure pour s'échauffer. Et après la course, effectivement, là, c'est fondamental. Si on a de grosses courbatures, c'est parce qu'on ne fait pas d'étirement. Et là, c'est une bonne séance d'étirement complète qui doit durer au minimum un quart d'heure après chaque séance d'entraînement.
Après la course, il y a une sensation de jambes lourdes. Et on m'a conseillé de garder les jambes en l'air pour que ça doit être cette histoire d'acide redescende.
Alors c'est vrai que les jambes lourdes après la course, alors il y a les étirements, c'est vrai, qui permettent d'évacuer, mais il y a une façon aussi d'évacuer l'acide lactique, c'est la douche écossaise sur les jambes. On commence par douche glacée, ensuite douche très chaude, douche glacée, douche très chaude, ce qui permet de faire vasoconstriction, vasodilatation des muscles, donc de faire travailler le muscle pour qu'il chasse cet acide lactique. Et on commence par le froid et on finit par le froid.
Je ne comprends pas, on commence par le froid et on finit par le froid, pourquoi ?
Alors il faudrait être toubib pour donner une bonne explication. La plus simple, c'est que les muscles sont gorgés d'acide lactique. Ils ont travaillé, donc il y a beaucoup de déchets. On commence par les contracter, de chasser cet acide. Après, on va mettre de l'eau chaude et on va pomper en quelque sorte. Un ballon, on le gonfle, puis on le dégonfle. Là, c'est le contraire. On dégonfle le muscle, on le regonfle avec l'eau chaude. Et ça, ça fait un mouvement de pompe du muscle qui chasse l'acide lactique, donc les déchets du muscle, et qui va éviter les courbatures et qui permettra le lendemain de refaire une séance.
Quel est votre conseil pour éviter les points sur le côté ou l'essoufflement ?
C'est un défaut de la ventilation. Alors effectivement, pour courir et courir longtemps et sans être essoufflé et sans avoir de points de côté, il faut adopter un rythme respiratoire. Le rythme peut être différent d'un individu à l'autre, mais il faut toujours privilégier l'expiration quand on court. Donc souvent on court en faisant sur les foulées. Même si ça s'entend, au contraire, c'est que effectivement, on expire bien. Quand on vit même comme ça sans rien faire, quand on respire, on n'aère pas la totalité de l'air des poumons. Il y a toujours une partie d'air vicié. Le fait de forcer fait qu'on expire cet air vicié au maximum, parce que c'est cet air vicié qui va provoquer le point de côté avec une réaction du diaphragme. Donc, si possible, adopter ce rythme respiratoire. Il y en a qui font 2-2, d'autres 3-3. Il faut trouver son bon rythme dans lequel on se sent à l'aise. Et si possible, à moins qu'on soit très enrhumé, on inspire par le nez, on souffle par la bouche. L'air passe par les fosses nasales, se réchauffe avant d'arriver dans les poumons. Aspirer par la bouche peut aussi provoquer un essoufflement ou des points de côté. Donc souffler par la bouche, inspirer par le nez, puis trouver votre bon rythme. Moi personnellement, je suis très bien avec 3 expirations, 2 inspirations, et ça fait 20 ans que je cours avec ce rythme respiratoire.
On a fait une compétition. Qu'est-ce qui est bien de faire? Est-ce qu'il faut s'arrêter une certaine période ou qu'est-ce que vous conseillez?
Alors, tout dépend de la compétition. Si c'est un 100 mètres ou si c'est un marathon, c'est pas du tout la même chose, effectivement. Alors, après une course de longue distance, et même si on fait une bonne séance d'étirement, même si on fait une douche écossaise, même si forcément le lendemain, on aura du mal à monter les escaliers. Hein. Première chose, boire. Il faut boire pendant la course, des boissons gazeuses, en priorité juste après la course, parce qu'elles favorisent l'élimination des déchets. Mais bon, pas d'alcool, bien évidemment. La bière est une boisson gazeuse, je sais, mais ce n'est pas forcément la plus recommandée. Le lendemain, souvent on reste au repos, mais faire ce qu'on appelle un footing de décrassage. C'est-à-dire trottiner, mais tout doucement, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, favorise l'élimination des déchets également. Donc ne pas s'arrêter totalement. Là, il n'est pas question de faire de la vitesse, de fractionner, mais tranquille, tout doucement, on trottine, à l'aise, quoi. Donc, bien boire, recharger l'organisme en glucides, parce qu'on les a pompés complètement pendant la course, donc les sucres lents, les pâtes, le riz, etc. Hein. Et puis, effectivement, footing de décrassage.
Peut-on faire son plan d'entraînement soi-même?
Oui, si on se connaît bien d'abord. Je crois que c'est la première des choses. On sait de quoi on est capable. On sait comment réagit l'effort. Et puis on sait quelles sont ses capacités. Hein. Pour la course à pied, il y a quand même différentes séances. La première, c'est de faire du footing lent, d'avoir un socle, une base de course à pied à vitesse réduite, à ce qu'on appelle en équilibre d'oxygène, hein, vraiment en endurance. Pour faire ça soi-même, il faut, la première chose, ce serait très bien d'acheter un cardio-fréquence-mètre. Vous avez peut-être vu déjà les coureurs cyclistes, quand ils ouvrent leur maillot au Tour de France, on voit qu'ils ont un bandeau noir qu'on se met sur le cœur avec une montre. Donc vous pouvez regarder en permanence à combien de pulsations vous êtes. Ça, c'est devenu, à mon avis, surtout si on veut faire son plan d'entraînement soi-même, un élément indispensable. On prend le pouls aux carotides et on commence à 0 et on compte sur 10 secondes. Après, on multiplie par 6, évidemment. Pour faire son plan d'entraînement soi-même, il faut connaître ce qu'on appelle la fréquence cardiaque maximum, la FCM, qui correspond à la vitesse maximale aérobie. Bon, je ne veux pas rentrer dans des détails techniques. Vous allez vous échauffer pendant 10-20 minutes, tout doucement. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, là, vous vous mettez à courir en accélérant progressivement, tous les 200 mètres à peu près, vous accélérez. Jusqu'à arriver au moins minimum 4 minutes de course. Pour arriver au maximum, vraiment, si vous continuez, vous affalez, parce que vous ne pouvez plus. D'où la visite médicale, très importante avant. Je répète, échauffement, course à pied, 4, 5 minutes, et vous accélérez progressivement jusqu'à ne plus pouvoir accélérer parce que vous êtes à bout. Et là, tout de suite, fréquence cardiaque, qui est entre 170 et 200, 210 pour certains. Il y a un test qu'on appelle le Temsastram qui dit que c'est 220 moins l'âge. C'est très théorique. Après, vos séances d'entraînement, elles sont basées non pas sur la distance je m'en fous, c'est le temps de course. Je cours un quart d'heure, je cours une demi-heure, je cours une heure, je cours deux heures, je cours trois heures. Ou je cours 30 secondes, ou je cours une minute, selon la vitesse où je vais courir. Mais la distance, peu importe. Sachant que la course d'endurance, c'est la faible allure, elle oscille, et c'est important, hein, entre 70 et 80% de votre fréquence cardiaque maximale. C'est le socle de tout entraînement, course à pied de longue distance, et c'est ce qui va remplir la majorité de vos séances d'entraînement. Deuxième type de séance, la puissance maximale aérobie, c'est-à-dire, restons sur 170, votre fréquence cardiaque maxi, c'est si vous allez au-dessus, vous ne pouvez plus consommer d'oxygène, votre corps ne peut plus, vous êtes à bout, donc c'est tout, vous êtes en panne. Séance d'entraînement va se faire sur du fractionné. Vous avez entendu parler d'entraînement fractionné. Du fractionné court, ça peut être 3 fois 1 minute, 3 fois 1 minute, repos de 3 minutes et de nouveau 3 fois 1 minute. Et là, on part entre 95% de votre fréquence cardiaque maxi. Donc, travailler sa puissance maximale aérobie, deuxième type de séance, fractionné court, 95, donc vous voyez, mais sur une minute ou même sur 30 secondes, on fait monter le cœur, presque au maxi. On trotte, j'ai couru une minute, je retrotte une minute, je repars pour une minute. Je retrotte pour essayer de récupérer, je repars pour une minute. Je souffle, je reste 3 minutes tranquille et je recommence ma deuxième série. Je peux faire aussi 1 minute 30, 2 minutes, jusqu'à 3 minutes maxi. Et je peux faire plusieurs séries comme ça. Toujours en montant à 95% de la fréquence cardiaque maxi. Donc c'est très élevé, c'est un entraînement. Alors toujours, bien sûr, avant, on fait un échauffement complet, et après, on fait 15 minutes de footing. Troisième type de séance, ce qu'on appelle la capacité aérobie, c'est-à-dire la capacité à courir à votre maximal sans tomber dans la panne d'oxygène. Donc là, on dit qu'il faut commencer ces séances 7-8 semaines avant une compétition. Si on ne fait pas de compétition, ce n'est pas la peine d'en faire. Donc vous faites des fractionnés 5 minutes, trotter 5 minutes, trotter, ça peut aller jusqu'à un quart d'heure. Ou si vous avez de la compétition, ça peut être remplacé par une compétition à 5 bornes, à 10 bornes, c'est en capacité anaérobie. Donc trois types de séances, endurance fondamentale, deuxième séance, la puissance maximale aérobie fractionnée court. Et ensuite troisième type de séance, la capacité à 85% grosso modo de la fréquence cardiaque maxi. Alors ensuite, les répartir dans la semaine, sachant que si on prépare un marathon, il faut aussi préparer 14, 15, 16 semaines. C'est minimum 4 séances par semaine pour le faire dans de bonnes conditions.
Là, c'est pour quelqu'un qui veut essayer d'améliorer ses performances au niveau alimentaire. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut limiter, voire arrêter carrément? Et est-ce que toutes les barres céréalières hyper énergétiques ou les produits hyper protéinés, vous êtes pour ou contre? Voilà, il y a deux questions en une.
Alors, c'est vrai que l'alimentation du sportif, quel que soit son sport, est importante. Encore une fois, tout dépend si vous pratiquez de façon amateur, pour votre plaisir, pour lequel vous pouvez avoir votre alimentation traditionnelle. Il n'y a pas besoin de faire de régime, sauf pas trop de graisse, 5 fruits et légumes, il faut manger des fibres, oui, effectivement. Mais sinon, non, il n'y a rien de spécial. Par contre, à partir du moment où on rentre dans un secteur compétition, effectivement, surtout sur les longues distances, le muscle fonctionne comme une chaudière. Il a les graisses, où il a le glycogène. Il faut avoir un régime, effectivement, qui soit hyperglucidique, pas hyperprotéiné, pas trop de viande. Hein. Alors les glucides, c'est quoi? C'est les sucres lents, c'est les pâtes, c'est le riz, c'est la semoule, c'est le pain, mais le pain blanc, pas le pain bis. C'est mieux le pain grillé le matin que du pain blanc. Hein. Ou alors, il y a même des maisons qui vous font ce qu'on appelle des nouilles liquides. C'est-à-dire que c'est des grandes boîtes qu'on vous vend, puis vous mettez ça dans de l'eau, c'est comme vous avaliez 5 portions de pâtes. Vous connaissez dans les marathons, la veille au soir, vous ne connaissez pas, vous connaîtrez peut-être, je vous le souhaite, ce qu'on appelle les pasta parties. Vous avez des marmites de pâtes et puis vous vous bourrez de pâtes. Moi qui n'aimais pas les pâtes, le jour où je me suis mis au marathon, ma femme me dit « Maintenant, tu manges des pâtes ?» Ben oui, je me suis mis aux pâtes. Parce que des glucides, des sucres lents. Alors par contre, attention aux sucres rapides. Exemple, vous allez prendre le départ d'une course, je ne sais pas quelle heure il est 20h15, vous prenez le départ d'une course à 20h45. Vous échauffez tranquillement, puis vous dites « Oh, je vais manger un peu de sucre ». C'est une catastrophe, car manger du sucre dans la demi-heure qui précède une départ de course va vous déclencher au bout de 10 minutes, un quart d'heure de course, ce qu'on appelle une hypoglycémie, qui d'un seul coup va vous trouver les jambes flageolantes, incapables de faire le moindre effort. Je l'ai vécu, donc je peux vous en parler, une hypoglycémie c'est terrible, ça vous prend d'un seul coup, un vide complet dans la tête, les jambes flageolent, c'est terrible. Ça c'est une réaction des sucres rapides, mais qu'on peut prendre après pour contrebalancer, effectivement. Et quand on a une hypoglycémie, un morceau de sucre blanc, c'est très bien, parce que c'est un sucre d'assimilation rapide. Effectivement, les 4 jours qui précèdent le marathon, c'est glucides, 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 à haute dose, quoi. Plus de déchets, plus de légumes, plus de fruits, régime sans résidus, pour pas avoir d'ennuis intestinaux. Donc, et toujours dans l'effort, boire, ça c'est essentiel. Même pendant les entraînements, boire. Quand je préparais des marathons, moi je travaillais comme tout le monde, je partais à 5h du matin ou 5h30 du matin, puis je faisais le grand tour de la communauté urbaine d'Arras dans le noir. Et la veille au soir, j'allais planquer des bouteilles d'eau dans les fossés. Et en passant, je savais que j'avais une bouteille d'eau, je buvais un coup, puis jusqu'à la prochaine bouteille d'eau. Boire, c'est essentiel. Boire de l'eau, bien sûr. Alors les boissons énergétiques, deuxième question. Moi, je pense que la seule chose qu'on peut prendre dans une course à pied à partir d'un 10 000, d'un 10 km, c'est effectivement des pastilles de glucose. À condition que ça soit à un endroit où on peut boire, donc à un poste de ravitaillement. Donc, à mon avis, les boissons énergétiques, c'est surtout commercial.
C'était Daniel Casseret, un amateur de course à pied. Il nous donnait des conseils pour pratiquer cette discipline. On continue cette émission sur le RAID avec Alexandre Penquin, chargé de la culture et de sport, de la communauté de communes, la Porte des Vallées. Il nous parle d'abord de la différence entre la course à pied et le RAID.
Alors la différence pour un RAID, en fait, c'est que c'est plusieurs activités sportives, donc il y a aussi bien de la course à pied que du vélo, donc du VTT. Il y a une course d'orientation, donc il faut savoir manipuler la boussole pour pouvoir s'orienter dans un bois ou sur d'autres terrains. Après, nous on a d'autres activités, donc c'est-à-dire qu'on a aussi par exemple une épreuve surprise chaque année. Cette année, c'est un parcours du combattant avec un quiz. Donc voilà, ça mélange plusieurs activités. C'est une préparation différente, c'est quand même beaucoup plus long en termes de temps. Par exemple, là, un raid, on met en moyenne c'est 3 à 4 heures d'effort. Une course à pied, bon, en fonction des kilomètres, ça peut être une demi-heure, 45 minutes ou une heure. Tandis que là, un raid, on multiplie les activités. Donc, c'est des parcours qui peuvent faire 20 ou 30 kilomètres en VTT. Après, on enchaîne sur de la course à pied. Enfin, voilà, c'est un enchaînement de plusieurs activités. Donc, c'est une autre préparation.
Cette année, c'était la 6e édition. L'année prochaine, ça sera la 7e. Comment est venue l'idée de créer cet événement le territoire de la communauté de communes de la Porte des Vallées?
Alors en fait, moi en tant que chargé des sports, je voulais créer un événement sportif majeur sur le territoire. Et en fait, en discutant avec mon collègue Laurent Decrique, qui gère l'association Aventure Nature et qui gère des raids sportifs aussi, on en a discuté par hasard une fois. Pourquoi pas s'associer et créer un événement ensemble. Donc lui, il a tout le matériel, toutes les puces, etc. L'idée a commencé comme ça en 2009 et 2010, le premier raid. À l'époque, c'était le raid des Vertes-Vallées, avant la fusion des deux communautés de communes. Et maintenant, on va rentrer dans la 7e édition. Donc on a commencé tout petit avec une trentaine d'équipes. Et maintenant, on est à plus de 100 équipes et 115 bénévoles, quoi.
Nous sommes avec Alexandre Penquin, chargé de la culture et de sport de la communauté de communes La Porte des Vallées.
Est-ce qu'il faut avoir déjà des prérequis pour participer à un raid ?
Les prérequis, c'est déjà d'être sportif un minimum, quoi. Donc, nous, par exemple, on est obligé de demander aux participants un certificat médical pour le VTT. en compétition et de la course à pied en compétition. Donc faut être un minimum sportif parce que bah sinon pour terminer le raid c'est quand même assez compliqué. C'est 3 à 4 heures d'effort, donc bon, faut savoir les gérer quand même ces heures-là.
Comment on choisit le terrain ? Est-ce que c'est un terrain sur du macadam ou bien c'est vraiment terrain battu ?
Alors en fait, il y a un peu les deux, c'est-à-dire que les vététistes, on va dire, préfèrent quand même des chemins en terre ou gazonnés, dans des bois, etc. Bon, après, en fonction du parcours, on est obligé de passer aussi sur du bitume. Donc, on essaye de mélanger un peu les deux. Puis, en fonction du parcours qu'on choisit aussi, parce que chaque année, c'est un parcours différent, on essaye de varier forcément un petit peu les plaisirs pour les sportifs. On essaye de privilégier quand même tout ce qui est bois, chemin en terre et gazon.
La sixième édition, c'était en mai à Duisan. Comment vous réfléchissez pour trouver le terrain adapté ?
Déjà, on regarde un petit peu les parcours. On regarde les distances aussi, parce que c'est important aussi. Les gens se préparent différemment en fonction des distances aussi. L'organisation se fait par rapport au parcours qu'on va choisir. Donc, c'est un travail de plusieurs mois. Et puis après, on essaie de faire les parcours les plus sympas possibles pour les sportifs, quoi.
Donc, de quel type ?
Les plus sympas, c'est quand même dans des bois, dans des petits chemins, des chemins voûtés, par exemple sur Warlu, où on a des super chemins où les sportifs adorent parce que on peut le faire aussi bien en VTT qu'en course à pied. Nous, en plus, on a la chance au niveau de la Porte des Vallées d'avoir des beaux chemins, des beaux sentiers. Donc, on essaie d'utiliser au maximum et de les mettre en valeur aussi. L'idée aussi, c'est de faire connaître nos sentiers de randonnée pour que les gens reviennent. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent de partout en France. On a des gens de Paris, des Belges, on a des Normands, enfin voilà, ça vient vraiment d'un peu partout. Donc l'idée, c'est que les gens viennent voir notre territoire et si jamais, restent quelques jours dans les gîtes aux alentours aussi, quoi.
Nous sommes avec Alexandre Penquin, chargé de la culture et de sport de la communauté de communes La Porte des Vallées.
Tu viens de parler qu'il n'y a pas que des gens qui viennent de notre territoire ou aux alentours d'Arras, en fait. Comment se passe cette communication pour que les gens, entre guillemets, d'aussi loin viennent alors que ce n'est pas forcément les vacances ?
Alors, en fait, c'est surtout que c'est des passionnés de raid. Donc, il y a une petite communauté qui s'est créée. Donc, nous, par exemple, on fait partie du comité régional des raids multisports. Donc, une fois qu'on a notre date, le lieu, etc., on communique assez rapidement et maintenant les inscriptions se font de plus en plus tôt, on clôture de plus en plus tôt parce que on est un peu victime de notre succès, c'est que ça marche très bien. Chaque année en fait on a beaucoup de participants qui reviennent, donc les gens sont contents de revenir au raid. Notre raid c'est toujours le jeudi de l'Ascension. Après c'est le bouche à oreille qui fait que ça se multiplie sur d'autres personnes et sur d'autres territoires. Pour tout ce qui est toucher les personnes par exemple de région parisienne ou de Belgique, etc. On communique sur des sites spécialisés comme rennesnature.com, comme sur le site de la Fédération des Rennes Multisports, etc. Et donc les gens voient tout ce qu'on fait au niveau vidéo, photo, etc. Donc ça les intéresse peut-être de venir et ils s'inscrivent. Et puis chaque année, on a des nouvelles personnes qui viennent nous voir, en fait. Ouais.
Donc les inscriptions, c'est à partir de quand ?
Alors maintenant, on essaie justement de les commencer de plus en plus tôt. Mmh. Parce que si on a clôturé nos inscriptions assez rapidement, au niveau organisation, c'est parfait pour nous. Par rapport à une course à pied, tout à l'heure on en parlait, c'est un peu plus complexe qu'une course à pied parce que nous c'est sur des chronos, sur des parcours, etc. Donc il faut gérer différemment. Nous après c'est une question aussi de vote de budget au niveau de la communauté de communes, etc. Donc ça, une fois que c'est passé, on peut lancer les inscriptions. Donc maintenant j'essaie de l'anticiper en amont. Donc vers décembre, début décembre, les inscriptions sont ouvertes. Et on essaye de clôturer, trois semaines avant l'événement. En général, c'est clôturé maintenant un mois et demi, deux mois avant, on est complet. Donc, il faut s'inscrire de plus en plus tôt, en fait.
Ouais. Et ben justement, en fait, la spécificité aussi par rapport à la course à pied et faire du marathon, c'est que c'est un sport d'équipe.
Voilà, tout le raid se fait par équipe de deux. Toutes les activités se font à deux, même pour les chronos, par exemple sur une activité, je veux dire, par exemple le trail. Le trail, c'est une course à pied sur des petits chemins, dans des bois, etc., dans des pâtures, on passe dans des pâtures, ça peut être dans l'eau aussi, enfin voilà. Et donc, par exemple, pour le chrono du trail, les personnes sont obligées d'arriver à deux pour biper, parce qu'il y a une puce par équipe, ils sont obligés de biper à deux en même temps. C'est un travail d'équipe, c'est-à-dire que si le gars en trail a un petit peu plus de mal que son coéquipier, il est obligé de l'attendre, quoi.
Quand on participe au raid, on fait toutes les activités VTT, etc. ou on fait qu'une seule discipline ?
Non, on est obligé de tout cumuler en fait. Donc vous partez à 8h du matin avec un roadbook en fait et vous suivez votre roadbook. Un roadbook, c'est une sorte de carte avec des flèches, etc. Ça vous mène sur les différentes activités, sur les différentes communes ou les différents lieux qu'on a choisis. Vous êtes obligé de cumuler toutes les activités pour pouvoir avoir un chrono au final et un classement et puis un podium peut-être.
Nous sommes avec Alexandre Penquin, chargé de la culture et de sport de la communauté de communes La Porte des Vallées.
Est-ce qu'il y a autant de personnes seniors que de jeunes qui participent au raid comme ça peut l'être aussi par rapport à la course à pied ou bien même tous les autres sports ?
Alors au niveau des âges, c'est vrai qu'on a un petit peu tout. On a pas mal de femmes aussi. Faut le souligner, mais après au niveau de l'âge moyen, on va dire que c'est quand même une bonne trentaine d'années. Nous, le raid adulte est ouvert aux plus de 16 ans, accompagné d'un adulte. C'est vrai que l'âge va de 16 ans jusqu'à, je crois, le plus vieux que j'ai eu cette année, ça doit être dans les 55-60 ans.
J'ai vu aussi qu'il y avait un parcours pour les plus jeunes, pour les juniors.
Alors ouais, il y a un raid junior l'après-midi, donc le raid adulte c'est le matin de 8h jusqu'à à peu près midi 13h. Pour les adultes, il y a deux parcours au choix. Il y a le parcours découverte et un parcours confirmé. Donc le découverte, il est plus accessible aussi pour tous les sportifs, puis ceux qui veulent connaître le raid et qui n'ont pas l'habitude. Et un raid confirmé où c'est un peu plus complexe. Et sinon, après, donc l'après-midi, il y a un raid junior. Donc pour les 8-15 ans, il y a les 8-12 ans qui sont accompagnés d'un adulte et les 13-15 ans qui sont par équipe de deux aussi. Là, tout se passe sur le site du bois de Clairefontaine, au collège Clairefontaine à Duisan. Donc là, bah, pareil, ils font à peu près les mêmes activités. Ils font du VTT, de la course d'orientation, un handbike. Et pareil, on a, par exemple, cette année, ils ont fait un peu de tir à l'arc. Ils ont déjà fait de la sarbacane, etc. On essaye de varier aussi les activités sur ce raid junior. Et donc voilà, donc, on a voulu créer et faire découvrir ce que c'était un raid aussi pour les plus jeunes, pour justement les amener sur le raid adulte d'ici quelques années, si le raid existera encore.
Est-ce que quand on participe à ce raid, on peut être qualifié au niveau d'autres compétitions nationales ou locales ?
On fait partie du comité régional des raids multisports du Nord-Pas-de-Calais. Donc en fait, c'est un challenge qui existe maintenant depuis 2 ans, je crois. Les équipes s'inscrivent donc à la Fédération des raids multisports et en fait, ils participent sur plusieurs raids de la région. Donc il y a le raid du Touquet, le raid du Bain-Saint-Minier, il y a le nôtre, il y en a d'autres sur Saint-Omer, etc. En participant à ces raids, ils cumulent des points. Bah, au cours de l'année, en fait, en cumulant ces points, ils font un classement général, mais toutes les équipes ne le font pas. Là, c'est vraiment les amoureux du raid qui font vraiment que ça, sachant que nous, on a au niveau des participants, il y a un petit peu de tout. Au niveau sportif, il y a des rugbyman, il y a des footeux, il y a des tennisman, il y a un petit peu de tout. Tandis que là, ouais, ceux qui vraiment font le raid toutes les semaines ou tous les mois, vraiment à haute compétition, voilà, eux, ils participent à ce challenge et ils cumulent des points pour participer après, ensuite, au challenge national.
Nous sommes avec Alexandre Penquin, chargé de la culture et de sport de la communauté de communes La Porte des Vallées.
Alors, c'est quand même un sport assez mal connu, le raid, même la course à pied. Comment on peut développer, on va dire, cette image-là par rapport à le foot ou bien même le handball qui est quand même très joué, on va dire ça comme ça, en EPS en sport ?
Alors, j'ai tendance à dire que toutes ces activités, donc de course à pied, style les foules, les pédestres et les raids, Et les trails, par exemple, sont en train de se développer. Comme je vois, par exemple, moi, j'ai fait les foulées de Mont-Saint-Éloi, il y a eu 1500 personnes, c'est un record. Là, il y a d'autres courses qui sont en train de se monter aussi, et les records sont en train de tomber au niveau participants. Après, je pense que là, même au niveau des collèges et des lycées, ça commence à se mettre en place de plus en plus aussi. Il faut laisser le temps, je pense, que ça se mette en place, que ça se fasse connaître, mais c'est en bonne voie pour se développer au niveau, au niveau des écoles. Par exemple, nous, déjà, au niveau du Raid Junior, on essaie de le faire connaître au niveau des plus jeunes. Donc, je pense que ça va venir dans quelques années, ça sera un sport connu. Et pareil, au niveau du challenge des Rennes Multisports, il y a une fédération qui s'est créée depuis quelques années, elle n'existait pas. Ça doit faire 2 ou 3 ans qu'elle existe, cette fédération. Et donc maintenant, on a un poids aussi au niveau du ministère, au niveau de l'État, au niveau de la préfecture, etc. Chose qu'on n'avait pas avant. Voilà, ça prouve que en fait, le raid est en train de se développer et les courses pédestres et les foulées, etc. sont en train de se développer sur le territoire ou au niveau national, quoi.
On peut retrouver toutes les infos pour s'inscrire au prochain raid ?
Toutes les infos seront disponibles sur notre site internet, donc laportedesvallées.fr, ou sur notre page Facebook, donc Raid de la Porte des Vallées. Ou après, par téléphone, les gens peuvent m'appeler aussi pour avoir des renseignements au 03 21 22 83 74 ou par email aussi à a.penquin@lpdv.fr. Mais voilà, là, on est en train de travailler sur la prochaine édition. Mais courant novembre-décembre, les premières infos vont filtrer et puis on pourra s'inscrire assez rapidement.
C'était Alexandre Penquin, chargé de la culture et de sport de la communauté de communes à la Porte des Vallées. Il nous parlait du raid organisé par l'intercommunalité.
Sur PFM, c'était l'émission Reportage en herbe dans le cadre de l'atelier radio effectué en partenariat avec la communauté de communes de la Porte des Vallées et l'association Le Club des Jeunes L'Hélice à Ransard, avec
Antonio,
Malicia,
Jasmine,
Laurane,
Marie-Jeanne,
Aurore,
Honorine.